7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Journée internationale de la francophonie. Nous donnons la parole à des jeunes, à des moins jeunes qui veulent écrire, faire écrire et lire en Afrique. Un habitant sur six vit sur ce continent, mais la production éditoriale de l'Afrique subsaharienne francophone, c'est moins de 2% de la production éditoriale mondiale. Alors pourquoi ? Comment produire, imprimer, distribuer localement des livres, notamment face aux grands groupes français ? Et puis surtout, comment mieux faire connaître les petites maisons d'édition du continent, les événements aussi autour du livre ? Pour en parler, eh bien c'est très simple, nous sommes installés à la Bibliothèque nationale de France, en direct, le long de la Seine, à Paris, un lieu ouvert à tous. Bien sûr, beaucoup d'étudiants viennent ici travailler, des chercheurs. Et puis bien sûr, nos invités. Bonjour, qui dit bébé ?
Bonjour, Emmanuel.
Vous avez été journaliste à RFI pendant plusieurs années, productrice d'une émission quotidienne qui s'appelait Reine d'Afrique à l'époque, et maintenant vous êtes devenue auteur, éditrice de livres de jeunesse pour l'Afrique. Vous dirigez une collection qui s'appelle Lucie chez Corrie Livre, basée à Bamako, pour apprendre, transmettre l'histoire de l'Afrique autrement, et qui est diffusée aussi dans les pays francophones. Béatrice Lalinong-Bado également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes de passage à Paris, vous êtes écrivain jeunesse, fondatrice de la maison d'édition Ruisseau d'Afrique, et vous êtes basé à Cotonou, au Bénin, et membre de l'Alliance des éditeurs indépendants. Bios Diallo, également de passage à Paris, bonjour.
Bonjour.
Écrivain mauritanien, directeur des livres et de la lecture publique au ministère de la Culture, à Nouakchott. On entendra également le témoignage de la très jeune génération qui ne regarde pas que des vidéos sur YouTube. On entendra Iboukane Joly, de 28 ans, qui est à Dakar, qui est fondateur de Kusoma, qui est une maison d'édition en ligne. Et puis la Benjamine, sur scène à la Bibliothèque nationale de France, fille famée Marie-Madeleine Akrota, 19 ans. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes béninoise, étudiante en France, mais il faut que je donne en réalité le nom par lequel vous êtes connue, très connue par les internautes qui vous connaissent en tant que Mylène Flicka. C'est comme ça qu'on vous appelle désormais, hein, Mylène.
Oui.
Vous êtes blogueuse, fondatrice du site Irawo, un site qui cartonne, et surtout vous rêvez entre autres de devenir écrivain.
Oui.
Je ne dévoile pas de secret.
Non.
En commençant par écrire évidemment sur Internet, vous publiez beaucoup de textes. La Bibliothèque nationale de France, vous connaissez les uns les autres?
Oui.
Oui.
Oui, par le biais de la section jeunesse qui abrite aujourd'hui l'ancienne association La Joie par les livres, avec Viviana, Marie Laurentin et Nathalie Beau. On a beaucoup travaillé justement à promouvoir le livre de jeunesse au sein de l'Afrique et partout dans le monde.
Et vous, Mylène Flicka, en tant qu'étudiante en ce moment en France?
Oui, je connais la Bibliothèque nationale et j'en ai beaucoup entendu parler.
Moi, en tout cas, il y a une bibliothèque que j'aime tout particulièrement qui se situe sur le continent africain. C'est la bibliothèque de l'Université Charonta Diop, où en général, elle est bourrée d'étudiants.
Ouais,
ouais. Et elle est bourrée d'étudiants silencieux et il y a une ferveur de lecture qui est extraordinaire. Voilà, vous nous suivez aussi en direct, bien sûr, sur Facebook et sur Twitter.
Émission spéciale, Journée internationale de la francophonie.
Béatrice Lalinong-Bado, loin de la Bibliothèque nationale de France, à Cotonou, au Bénin, mais sur le continent africain, puisque vous êtes une éditrice africaine. Quelle est votre perception de l'édition et du livre en Afrique dans sa mission principale, c'est-à-dire toucher ses lecteurs sur le continent? D'accord. Et la littérature jeunesse?
D'abord, la finalité de mon écriture en tant qu'écrivain jeunesse, c'est de participer à ce processus de construction de la personne humaine, amener la personne à se découvrir, à se déployer et à prendre son ossature de femme, d'homme. C'est tout un processus, et pour les jeunes, les enfants, le livre a un poids et a une importance dans ce processus-là. Donc, publier pourquoi ? Publier pour que dans les livres que nous donnons à nos enfants, ils puissent reconnaître des environnements qui leur sont propres, une histoire qui leur est propre, retrouver leurs racines culturelles, puiser dans la sève de la culture de chez eux pour grandir dans l'estime de soi Et une fois qu'on a grandi dans l'estime de soi, on est capable d'entrer en relation avec l'autre voisin et échanger, donner, recevoir, tout en étant fier de qui on est. Et le monde entier y gagne. Donc, publier pour permettre à tout enfant qui grandit en Afrique de se nourrir de sa propre culture.
Ouais. Envers et contre tout, malgré toutes les difficultés du quotidien, vous publiez entre 5 et 10 ouvrages par an dans votre maison d'édition.
En moyenne. Et le Bénin est un pays qui est plutôt petit. À côté, vous avez le Togo, qui est aussi un pays francophone. Donc, le marché local dont nous disposons est petit. Et conscient de cette difficulté, nous avons très tôt initié un processus de co-édition qui nous permet en même temps de faire une co-distribution. Et le principe, c'est de travailler avec des collègues de Tunisie, par exemple, avec CRS Éditions, Côte d'Ivoire avec Eburni, Gandal de Conakry, et avec un éditeur togolais ou d'autres éditeurs sénégalais, et de partir d'un même ouvrage, d'une même maquette. Et une fois que nous avons fait le consensus, nous avons des tirages que nous mettons ensemble. Et le livre a une chance plus grande de rayonner comme dans des foyers à partir de toutes ces capitales où ce livre est reçu et copublié.
Et tout ça à partir de Cotonou, adossé au géant anglophone qui s'appelle le Nigeria.
Qui s'appelle le Nigeria. Et quand on fait deux bons à côté, on a le Ghana aussi. Donc, c'est vraiment un étau. Mais on défend cette langue que, en tout cas, moi, j'ai connu enfant, que j'ai aimé et dont j'aime les tournures. Je suis amoureuse des belles lettres. Et j'étais une souris de bibliothèque et aussi, je veux, à travers les livres, transmettre des valeurs de chez nous que j'ai reçues à travers les livres et que je retrouve comme valeurs universelles. C'est-à-dire, elles sont africaines avant tout, parce que c'est comme ça que je les ai connues. Mais en grandissant et en fréquentant le monde, j'ai réalisé que non, les valeurs humaines, elles étaient universelles. Et donc, le livre aussi, produit en Afrique, chez nous, a pour mission de montrer cette universalité de la sagesse. Et elle est une. Elle prend des habits selon l'environnement où elle atterrit, mais ses habits culturels ne lui enlèvent rien de son universalité.
Bios Diallo, vous vous reconnaissez dans la mission que vient de définir Béatrice Lainong-Bado?
Oui, bonjour. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec Béatrice, avec Kidi, avec notre Benjamin ici, blogueuse. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la mission principale du livre, c'est de pouvoir le mettre à disposition du public. Parce que si on n'a pas le livre à disposition, on ne peut pas du tout savoir quelle mission on pourrait...
Qu'est-ce que vous appelez à disposition?
Oui, non, mais parce que tout simplement, le livre, elle l'a dit, à côté du Bénin, il y a de grands pays. Mais le livre à disposition, c'est que les enfants puissent avoir accès au livre. Et ça, c'est la principale difficulté. Parce que
soit dans des bibliothèques qui sont souvent vides, soit en demandant aux parents de débourser de l'argent.
De débourser de l'argent, mais le coût de la vie, le marché fait que les gens n'ont pas suffisamment de moyens de se procurer le livre, d'acheter le livre. Et cette synergie qu'elle crée avec d'autres éditeurs du Sénégal, Gandal en Guinée et autres, afin de produire un livre à moindre coût, et permettre l'accès au livre, parce que les gens n'ont pas suffisamment de bourses pour se procurer ce livre-là. Et la demande est forte. Ce n'est pas parce que la demande n'est pas là, la demande est là, mais c'est le marché, c'est la bourse qui fait que les gens ne peuvent pas se procurer le livre. D'où le fait que, sans y doute, elle a dû le voir, le comprendre, l'apercevoir. Très souvent aussi, il arrive que les gens photocopient le livre, en se l'achètent, et c'est 10, 15 autres qui l'ont. Et là, il y a un manque à gagner pour les éditeurs.
Le livre, de toute façon, circule. Hein. C'est la magie du livre papier. Qui dit, bébé, vous, depuis quelques années, vous observez un vent favorable, une prise de conscience, une demande, en tout cas, beaucoup plus importante que ce qu'on imagine?
Oui, je crois que pendant assez longtemps, on a considéré, j'ai envie de dire presque outrageusement, que les jeunes Africains ne lisaient pas, n'étaient pas intéressés par la lecture. Une pionnière comme Béatrice est là pour prouver le contraire. Quand je l'ai rencontrée, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, elle débutait sa maison d'édition et a prouvé dès le début que, en effet, si on partait de ce principe que le livre contribue essentiellement, enfin de manière essentielle à la construction de l'individu et donc des enfants, et si on le mettait à sa disposition, leur disposition, pardon, eh bien, ils avaient vraiment un appétit pour ça. Et Béatrice, j'admire beaucoup sa démarche qui est non seulement éditoriale, mais aussi, il y a une vraie stratégie économique et commerciale. Pour cette mise à disposition, elle pense notamment eh bien, aller vers le réseau pédagogique de son pays, le Bénin, et à apporter le livre dans les lieux
à partir de l'école,
voilà, où il y aura une médiation scolaire.
Pour fabriquer des lecteurs, voilà. Finalement.
Où
est-ce que vous faites imprimer vos livres, Béatrice Lalinong-Bado?
Oui, les livres, nous parcourons le monde à la recherche d'un rapport qualité-prix acceptable.
Oui.
Parce qu'en même temps, on aimerait que nos livres ne soient pas achetés par pitié, parce que c'est un outil venant d'Afrique, qu'il faut acheter pour leur faire plaisir, et qu'on ne rougisse pas quand on est à un salon du livre comme le salon Livre Paris. Et donc,
sur le marché africain, le consommateur n'achète pas un livre pour vous rendre service, il l'achète parce qu'il le désire. Non,
oui, mais lui, il a besoin donc d'avoir un prix acceptable à son niveau de vie et en même temps la qualité.
Absolument.
Et pour cela, on imprime au Bénin, on imprime en Tunisie, on imprime à Dubaï, on imprime aujourd'hui à Istanbul. On fait le tour du
c'est
monde.
Ça. Vous imprimez vos albums de jeunesse à Dubaï et à Istanbul.
On peut avoir un rapport qualité parce qu'on veut donner aussi à nos enfants la qualité, ne pas les habituer à quelque chose de mieux.
Mylène Flicka, vous, 19 ans, qu'est-ce que vous aimez lire aujourd'hui?
21 ans.
Je vous ai encore rajeuni.
Je lis beaucoup de philosophes contemporains et comme des philosophes de l'époque passée comme Nietzsche. Je lis aussi beaucoup des chroniques sur Internet des jeunes auteurs comme moi qui utilisent Internet pour partager leur passion pour la plume. Et aussi en tant que rédactrice en chef de IRAO, je fais lire aussi beaucoup de jeunes Africains à travers le média.
On va en parler bien sûr de votre site Internet. Les voisins, les voisines, vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct de la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque François Mitterrand. En cette journée de la francophonie, je vous offre bonbons vaudou. Chez nous.
L'amour kéa. L'amour kéa.
L'amour Ikea qui démontable. Ma doudou, as-tu mis la clé? Pour resserrer les vis, ce n'est pas de l'érable, mais de la glo qui ploie sous le poids des dossiers. L'amour Ikea qui démontable. Ça va si mais possiblement ça tient. T'affiles le plan, ça paraît confortable, ouais. Mais rien ne correspond, ce plan, c'est de l'ancien.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea.
Pour monter ce meuble-ci, tout doux, je croque ma haie. Check la notice, bébé. Check la notice, la notice, la notice. Pour monter ce meuble-ci, ouais. Oh, doudou, je craque, mais hey, check la notice, bébé. Tu le crois? Il faut être trois.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea.
Fissure dans la planche, usure du modèle. Je te quitte, moi non plus. N'ouvre les bras pas. Qu'est-ce qu'on fait des promesses? De nos noces de miel.
L'amour Ikea, bonbon vaudou, nous sommes en direct de la Bibliothèque nationale de France en cette journée internationale de la francophonie. On s'intéresse à l'édition en Afrique, comment publier des auteurs africains pour trouver un lectorat africain. Vous nous le disiez d'ailleurs juste avant, il y a quelques minutes, il y a une réelle demande. Il y a bien sûr des problèmes de coûts pour acheter des livres. Les bibliothèques ne sont guère fournies, à part les bibliothèques africaines. Bios Diallo, vous, en tant qu'écrivain mauritanien, directeur des livres et de la lecture publique au ministère de la Culture à Nouakchott. Et puis vous organisez aussi de nombreuses rencontres littéraires, notamment les Mauritanides, hein, avec des festivals. Vous sillonnez aussi les écoles pour faire découvrir le livre, pas seulement d'ailleurs la littérature, hein, ça peut être des essais. Mais quelles sont aujourd'hui, je dirais, les stratégies pour faire découvrir le livre compte tenu du faible pouvoir d'achat du public?
La stratégie, c'est simplement d'amener les auteurs à l'école. Parce que en amenant un auteur à l'école, on gagne non seulement sur le livre, mais on gagne aussi sur la présence de l'auteur. Ça permet déjà aux enfants et aux jeunes de savoir que des écrivains vivants existent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous, à travers Traversée Mauritanie, le festival que vous venez de citer, que nous avons lancé en 2010 et qui, en novembre prochain, aura sa 9e édition. Nous avons déjà reçu pas mal d'auteurs, Cheikh Hamidou Kane, Felwin Sarr, Ken Bougoul, Samy Tchak et bien d'autres.
Donc largement ouvert sur le continent.
Et largement ouvert sur le continent. Et chaque année, nous recevons aussi le prix des 5 continents de la francophonie. Notre stratégie à nous, c'est d'essayer d'abord de commencer par un maillage, parce que chaque année, il y a des auteurs du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal et du Mali. Faire d'abord connaître nos sphères limitrophes aux auteurs, aux enfants mauritaniens, qu'ils comprennent qu'ils ont des voisins qui écrivent et qui ont une certaine stratégie. Ensuite, maintenant, un peu plus loin, parce que nous faisons venir des auteurs qui viennent des États-Unis, Eddie Harris, par exemple, pour la dernière édition, Laetitia Baumel, qui est venue du Canada, mais qui est française, qui est vivant au Canada, et les prix des 5 continents, qui peuvent être de n'importe quel autre pays. La stratégie, c'est d'amener ces auteurs-là dans les écoles. Et à chaque fois que nous les amenons, parce que nous sommes dans un pays où il n'existe pas encore, à proprement parler, de maisons d'édition. Nous avons 2 maisons d'édition, mais qui n'ont pas encore pignon sur rue comme certaines maisons d'édition. Nous avons l'imprimerie nationale, mais ce n'est pas suffisant face à la demande.
Qui n'est pas une imprimerie spécialisée d'ailleurs dans l'édition de livres, de littérature ou d'essais.
Pas de littérature, pas d'essais, mais une imprimerie globale, une imprimerie nationale. Mais très souvent, on a l'impression que lorsqu'on parle de l'imprimerie ou bien lorsqu'on parle de la lecture, qu'on parle essentiellement de littérature. Non.
Justement, j'allais poser la question à Kidi Bébé. Aujourd'hui, quelle est la production et la demande sur le continent africain? Parce que bien sûr, il n'y a pas que la littérature, il y a les essais. Si on prend un pays comme la France ou de nombreux pays anglophones, par exemple, les livres de cuisine se vendent admirablement bien à l'heure d'Internet. Ça peut sembler surprenant d'ailleurs. Mais sur le continent africain.
Je ne sais pas ce qu'il en est des livres de cuisine sur le continent africain. Je sais qu'il y a des records de vente, en effet, dans certaines aires géographiques. On parlait du Nigeria tout à l'heure. On sait que le Nigeria a des records de vente sur les livres pratiques, par exemple, sur le développement personnel notamment, mais aussi sur le livre pratique, les livres qui s'adressent aux mécaniciens, enfin à certains métiers en particulier, avec des records de vente qui feraient pâlir certains concours ici.
Oui, mais c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas s'atteler seulement ou s'arrêter simplement sur la littérature. Parce que dans les productions livresques que nous pouvons avoir, les scientifiques, les mathématiciens, les agronomes et tous peuvent être intéressés par ces livres. Donc il faut mettre à disposition tous ces livres-là pour ouvrir le champ de lecture, pour ouvrir le champ de la curiosité à tout le monde. Ne pas s'atteler seulement à ça. Parce que si on fait croire aux gens que la lecture, c'est essentiellement littéraire, on bloque.
C'est vrai.
Beaucoup n'iront pas dans les bibliothèques, dans les librairies. Et ça, c'est très beau aussi par rapport à ce que Kidi fait avec Coury Édition. Il y a, par exemple,
la collection
sur la
Lucie,
musique,
sur
la collection Lucie, des collections sur aussi bien variées, aussi bien sur Aimé Césaire, Senghor, que Maria Makeba et d'autres, et même des lutteurs.
Mais je partage ton avis. Je me souviens d'une période où la librairie Notre-Dame de Cotonou, justement, remarquable librairie d'Afrique de l'Ouest, avait ouvert un rayon d'essais scientifiques de haut niveau. Et ce rayon fonctionnait très, très bien. Mais c'est vrai que nous, disons Béatrice et moi, nous avons tendance à insister sur la jeunesse et sur la littérature de jeunesse et le documentaire pour la jeunesse, parce que c'est là que tout commence, en fait. C'est là que si on crée des...
Il n'y a pas que littéraire.
Non, bien sûr. Mais si on crée des lecteurs, disons petits, on a des
et
chances d'avoir aussi des lecteurs
la jeunesse,
et des acheteurs.
On va parler bien sûr dans quelques instants après le flash, on parlera des super-héros parce que c'est ce qui fait quand même rêver les jeunes sur tous les continents. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le flash. On entendra le témoignage d'un jeune start-upper, je suis désolée, pardon pour l'anglicisme, entrepreneur dans l'édition numérique. On se retrouve juste après le flash. 7 milliards de voisins. Dans un peu plus de 3 minutes, nous sommes en direct de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, à Paris, sur les bords de la Seine.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI en direct à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Nous sommes à la Bibliothèque nationale de France. Quel avenir pour l'édition en Afrique et pour les lecteurs africains, bien évidemment, c'est la question que nous nous posons. Sur le continent le plus jeune de la planète, les livres de jeunesse sont rares. Alors, écrire, éditer, imprimer, faire connaître, faire vendre, autant de métiers, de savoir-faire qui doivent trouver leur marché, leur lectorat. On en discute avec nos invités qui travaillent à cela. Kili Bébé, Béatrice Lalinong-Bado, vous êtes éditrice respectivement, Bios Diallo, vous occupez du livre en Mauritanie, Mylène Flicka, jeune blogueuse. Et puis tout de suite, nous partons pour Dakar avec le témoignage d'un jeune entrepreneur. Il a monté une plateforme d'édition de livres numériques. Nous sommes en ligne à Dakar avec Iboukan Joly. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un citoyen africain, avez-vous coutume de dire, tellement vos origines sont mêlées sur le continent. Et vous êtes surtout le fondateur d'une maison d'édition en ligne qui s'appelle Kusoma Group.
Oui.
Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à créer cette plateforme numérique pour des auteurs?
La création de Kusoma Group a été motivée par d'abord la recherche d'un livre africain que je n'arrivais pas à trouver ici dans les librairies du Sénégal, alors que les livres étaient déjà publiés et disponibles dans les librairies des autres pays. Le problème, c'est que déjà la distribution du livre n'était pas très bien faite. Donc si on avait la possibilité de l'avoir en version numérique, ce serait plus facile pour nous. C'est ainsi qu'est née vraiment l'idée derrière les Kusoma Group. Mais aussi, il faut dire que ça a évolué depuis le temps. L'idée première n'est plus celle actuelle.
Iboukan Joly, comment fonctionne concrètement la plateforme? Qui sont les auteurs édités? Comment ça fonctionne?
Au départ, en fait, nous nous concentrons exclusivement sur l'édition. Comme l'édition classique, un auteur envoie son manuscrit à la maison d'édition et nous faisons tout le travail d'édition comme cela se fait, mais à la sortie,
donc de sélection, au lieu que le livre... Ça veut dire qu'il y a un travail de sélection des auteurs, un travail éditorial avec les auteurs où vous leur demandez de retravailler des choses, par exemple?
Exactement, oui. En fait, déjà, il y a un comité de lecture qui évalue l'œuvre et s'il y a besoin de retravailler l'œuvre, nous le faisons savoir à l'auteur et après, l'auteur nous envoie encore le manuscrit et après cela, s'il est validé, il y a la partie de correction, donc il y a une relecture et la correction de l'œuvre. Et après cela, il y a tout ce qui vient derrière, donc la fabrication, la couverture et tout cela. Donc c'est vraiment comme l'édition classique, sauf qu'à la sortie, au lieu d'un livre papier, nous avions au départ un livre numérique. Nous avons amélioré cela en proposant aussi aujourd'hui des livres en version papier.
S'il est suffisamment lu, apprécié et acheté en version numérique?
Oui, en fait, ça c'était la première règle. Il fallait avoir un total de 250 achats en version numérique pour que nous puissions le publier en version papier. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était un peu difficile pour certains auteurs d'atteindre ces 250 exemplaires vendus en version numérique. Et donc, c'est ainsi que nous sommes venus avec l'idée de l'impression à la demande, ce qui permet aujourd'hui à l'auteur d'avoir son livre en même temps en version numérique qu'en version papier.
Et aujourd'hui, un exemple d'auteur, de livre, de roman né sur la plateforme et est devenu populaire, à qui vous pensez?
Le titre de l'œuvre, c'est Une djinn amoureuse et le nom de l'auteur, c'est Balo. C'est son premier livre. C'est l'un des livres qui s'est très bien vendu, aussi bien en version numérique qu'en version papier. Donc c'est l'histoire d'une djinn, donc c'est un esprit spirituel qui tombe amoureuse d'un être humain, donc d'un homme. Oui. Et c'est cette histoire qui est racontée en fait dans le roman.
Et quand vous dites que c'est devenu populaire, on est loin des scores de YouTube, évidemment.
L'auteur jouissait d'une certaine réputation, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce qu'il avait une page qui était suivie par près de 126 000 personnes. Donc, lorsque le livre est sorti, il y a énormément de personnes qui l'ont acheté, aussi bien ici au Sénégal que dans les autres pays de l'Afrique et même en Occident. Mais sinon, ce n'est pas notre meilleure vente en version numérique, par exemple.
Et quelle est la meilleure vente en version numérique pour votre groupe Kusoma?
La meilleure vente, c'est un livre qui s'intitule « Journal d'un ex-gamer et séducteur ». Et c'est sorti en deux tomes, c'est vraiment jusque-là, c'est notre meilleure vente en version numérique parce qu'il n'est pas disponible en version papier.
Ouais, journal d'un ex-gamer et séducteur, hein, c'est bien cela.
Oui, oui, c'est un jeune homme qui raconte en fait ses prouesses de séducteur et comment est-ce que... Voilà.
Ouais. Iboukan Joly, est-ce que le numérique aujourd'hui sur le continent africain peut permettre de faire vivre le livre qui ne parvient pas à vivre via le papier, via l'édition classique?
Bon, je pense que c'est possible de le faire, mais il faudrait savoir déjà l'utiliser. Parce que jusque-là, on n'exploite pas réellement le numérique comme il se doit. Quand je parle de numérique, je parle aussi bien de l'Internet de manière générale que des réseaux sociaux de manière particulière. Et je dis souvent que les trois problèmes dont souffre l'édition en Afrique, c'est la promotion et la distribution et le coût. Avec, par exemple, le numérique, nous pouvons réduire le coût et nous pouvons faciliter la distribution et aussi la promotion peut se faire grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est un grand grand avantage qui, jusque-là, n'est pas encore vraiment saisi, on va dire.
Et Boukane Joly, je sais que vous écrivez aussi. Vous êtes avant tout quand même un jeune entrepreneur. Hein. Question indiscrète. Oui. Sur une journée, vous passez plus de temps à regarder des vidéos ou à lire des livres ?
Je passe beaucoup plus de temps à lire, mais pas forcément des livres. Je lis beaucoup plus sur Internet, donc les médias en ligne et aussi bien les blogs ici comme d'ailleurs. Donc je suis beaucoup sur une plateforme qui s'appelle Medium, où je lis énormément. Mais sinon, je lis beaucoup plus que je ne regarde des films, on va dire.
Vous êtes pas tellement conforme à votre génération, non ?
Pourtant, si. Je pense que je fais exactement ce que tous les autres font. Et même ici, au Sénégal, par exemple, que je connais un peu mieux, les gens lisent beaucoup, sauf qu'ils ne lisent pas de livres. Et donc, puisqu'on ne voit pas les achats voler très haut au niveau des librairies, on pense que les gens ne lisent pas. Mais ils lisent beaucoup, mais sur Internet. Donc oui, les gens lisent en fait.
Merci, Boukane Joly, et très très bonne journée à Dakar.
Merci à vous.
La Journée internationale de la francophonie, en direct de la BNF.
Mylène Flicka, vous qui avez 21 ans, blogueuse, vous connaissez Boukane Joly dans la blogosphère.
Oui, je le connais et surtout je sais comment est-ce qu'il a participé, je vais dire, à l'érection d'une littérature jeune et surtout à publier des auteurs qui auparavant ne pourraient pas être publiés chez des éditeurs en papier.
Vous êtes d'accord sur son constat que les jeunes finalement lisent, mais pas tant que ça, de textes longs?
Je vais dire que la lecture s'est réinventée aussi avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leur temps à lire des chroniques de jeunes auteurs sur le continent, sur Facebook ou sur des sites web. J'ai moi-même un site web de recueil de nouvelles.
Ouais. Et vous écrivez très bien, il faut le préciser, mais ce sont des textes courts. Vous vous imposez un format, vous vous dites stop, là c'est trop long, mes lecteurs ne suivront pas.
Il y a ce qu'on appelle le concept du rythme et du suspense. Par exemple, sur Internet, beaucoup d'auteurs ont l'habitude de publier avec des chapitres et ils maintiennent un suspense qui fait que les lecteurs sont toujours présents à lire beaucoup plus de livres et ils font les commentaires sur les réseaux sociaux. Et ainsi se crée, je vais dire, ce qu'on appelle une communauté en faveur de l'auteur qui voit ainsi son œuvre promue par ses propres lecteurs. Et ainsi, il se construit une réputation qui peut faire que plus ses lecteurs sont grands et plus il arrive à atteindre plus de personnes et à partager ces histoires un peu plus partout dans le monde.
Ça y est, on est vraiment là dans le monde de l'Internet avec vous, hein, la e-réputation pour les auteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est quelque chose d'absolument fabuleux, l'immersion de l'Internet aujourd'hui dans notre vie par rapport à ce qu'elle fait. Il y a des Fatou Kane aussi qui entretient un excellent blog qui permet de découvrir des textes avec des lectures, avec des notes de lecture et tout ça. C'est la même chose pour Lys. Et en Mauritanie aussi, nous avons Vlan qui anime un texte, un site web, une page web et tout ça, un profil, un excellent blog. Donc aujourd'hui, à travers ces blogs-là, on parvient à donner aux gens le goût de la lecture et d'aller de l'avant.
Ne pas les opposer donc, Béatrice Lalinong-Bado, même
oui,
si vous êtes encore, vous êtes sur le papier encore.
Je suis sur le papier encore et je pense qu'on est en plein dans les stratégies. Et toutes les stratégies sont bonnes selon l'angle d'attaque de chacun. Par exemple, nous, depuis 20 ans, pratiquement en même temps que la maison d'édition, nous avons une animation culturelle tous les ans qui s'appelle la Semaine du Livre. Et quand nous descendons dans le Bénin profond, on a toujours l'impression qu'il manque des livres aux enfants. Ils en demandent toujours un peu plus. Donc à cette étape-là, chez nous, le livre papier joue bien son rôle. Et la stratégie de maintenir l'envie de lire, de l'entretenir chez les enfants, c'est bien. J'avais parlé de la stratégie de la coédition, coproduction.
Oui.
Il y a aussi la stratégie de descendre dans les écoles et de créer des animations avec les éducateurs, les enseignants. Ça fait que les enfants se retournent et se posent la question s'il y a tel et tel jeune qui sont des personnages héros dans les livres. Il y a des choses qui parlent à partir de la nature du personnage et qui m'interpellent. Mmh. Et pourquoi pas moi ? Et ils s'intéressent aux livres. Et
donc, à quoi vous pensez dans votre production, par exemple ?
Une autre stratégie.
Dans ce que vous produisez, dans les histoires que vous produisez, celles qui cartonnent.
Dernièrement, nous avons eu un prix Saint-Exupéry, Valeurs Jeunesse, avec Zanou sur les traces de grand-père. C'est dans la collection à l'école des anciens. Et dans cette collection, on a un adolescent qui est auprès de son grand-père et qui, sans le savoir, va vivre un parcours initiatique. Et quand il réalise qu'il a subi, ce parcours initiatique et que son grand-père est en train de le bénir, il est très ému. Mais dans son parcours, il véhicule des valeurs humaines que justement nous voulons transmettre à la génération qui vient. Et dans ces livres-là, on arrive à les transmettre, à les diffuser aussi parce qu'il y a des parrainages qui sont importants. Par exemple, quand nous coproduisons, il y a l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie qui dès les premières heures de Ruisseau d'Afrique avec tous les collègues dont j'ai parlé, ça a été important. La coopération française. Oui, et aujourd'hui, nous sommes membres
du monde,
de l'Alliance.
Il faut de la main-d'œuvre pour relire les manuscrits, pour les travailler, travailler les textes, les images, les albums, etc.
Ça, c'est interne à la maison d'édition. Mais quand je parle de parrainage, c'est être membre des réseaux, parce qu'on parlait de réseaux.
Pour mieux diffuser.
Comme l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, où on peut co-éditer et diffuser les livres ensemble.
Mylène Flicka.
Oui, je tenais à dire en fait que quand on observe un peu la génération de nouveaux auteurs qu'il y a sur le continent, à travers, la mosaïque de leur identité, ils arrivent à transmettre à la fois des valeurs africaines, mais surtout des valeurs contemporaines. Ils arrivent à documenter la révolution actuelle sur le continent. Et par exemple, quand je prends le travail que fait le média en ligne IRAO, on raconte les histoires des talents africains, on construit une narration autour des symboles de réussite de nos pays. Et surtout, je vais dire qu'on arrive à captiver l'attention d'une jeunesse qui s'est déplacée des médias traditionnels vers les médias nouveaux. Ils ont envie qu'on les informe, ils ont envie de lire. Et bien sûr, IRAO est la preuve que les jeunes Africains continuent à lire, mais il faut arriver à faire de la lecture, une autre variable de l'attention des jeunes. Il faut tout simplement leur faire transmettre la littérature à travers d'autres moyens sans pour autant se restreindre à des moyens. Et ensuite, quand Ibuka parle du problème du coût, de la production, quand tu es un jeune auteur et que personne ne te connaît et que tu fais le lancement de ton livre, il y aura tes amis qui vont venir, qui vont signer le livre avec toi, qui vont le payer. Mais après, qu'est-ce qui se passe après cela? Et aussi au niveau du coût du papier, comment est-ce que toi, en tant que jeune auteur de 15 ans, de 20 ans, comment est-ce que tu arrives à trouver le capital pour pouvoir déposer chez un éditeur ou pouvoir produire et ensuite la solution c'est l'auto-édition, c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes se lancent aujourd'hui sur internet et je crois que les maisons d'édition autant classiques que nouvelles ont vraiment des défis à relever de ce côté-là.
Bios Diallo.
Oui, je rebondis un peu sur ce qu'elle dit, c'est très important, c'est pour cela qu'il y a une nécessité de créer des synergies. Et nous, ces synergies, nous les construisons comment? À travers, par exemple, le Festival Traversée Mauritanie, notre première idée, d'abord, c'était d'intéresser les jeunes mauritaniens aux auteurs mauritaniens existants. Du coup, nous nous sommes appuyés sur différentes structures, par exemple, Planète Jeune, Planète Enfant, donc qui dit connaît très bien, représenté par Tal Mamadou en Mauritanie. Et avec Planète Jeune, nous faisons le tour des écoles, nous partons d'établissement en établissement, nous faisons même une bibliothèque mobile. Et avec les auteurs mauritaniens aujourd'hui, nous sommes parvenus à faire le tour des établissements et l'Association des écrivains mauritaniens a même créé aujourd'hui une revue. Et ça permet, avec l'association J'aime lire et la librairie Je lis, de faire plusieurs quartiers de Nouakchott. Et nous essayons aujourd'hui, grâce à des partenariats avec l'Alliance franco-mauritanienne, l'Institut français et le ministère de la Culture, d'essayer d'instaurer des bibliothèques dans chaque quartier. Et on va essayer d'aller à l'intérieur du pays. Parce que la lecture, ce n'est pas qu'à Nouakchott, la capitale. Mais ça,
et
c'est
des synergies. Et puis il y a aussi des lecteurs qui ont envie peut-être de découvrir un lecteur à Nouakchott, a peut-être envie de lire un écrivain ivoirien,
exactement,
béninois, togolais. Ça, c'est encore très difficile.
Mais c'est très difficile. Et puis bon, ce qui est frustrant d'ailleurs, c'est que la plupart du temps, les auteurs africains, on se retrouve beaucoup plus à l'extérieur, en France, en Allemagne, au Canada, plutôt qu'en Afrique. D'où le fait de traverser Mauritanie, de privilégier les auteurs africains.
Ouais, vous n'avez pas encore parlé des grandes maisons d'édition françaises. Qui dit bébé, je vous laisse le soin de... Parce que comment vous voyez cette concurrence extraordinairement professionnalisée depuis de longues années et qui, pour 98 livres français exportés sur le continent africain, la France en importe deux, hein,
voilà,
du continent
ça.
Africain.
C'est vrai donc qu'il y a un déséquilibre très fort. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment de le souligner parce que je voulais juste... appuyer à la fois ce qu'a dit Béatrice et ce qu'a dit Mylène. Je trouve que c'est un moment extrêmement intéressant aujourd'hui, en réalité, où les moyens de distribution, de réalisation des livres déjà, de distribution et de promotion des livres sont démultipliés. En fait, on a vraiment le côté classique, en effet, avec des festivals, avec une promotion telle qu'on la connaissait avant. Et puis, il y a toute cette effervescence numérique qui permet à des jeunes auteurs au fond, de se passer de ce classicisme totalement pour aller directement à la rencontre de leurs lecteurs, les trouver et les, comment dire, les avoir un pouvoir d'attraction parce qu'ils sont dans des médias que les jeunes reconnaissent, notamment la jeune génération.
Court-circuiter les maisons d'édition classiques.
Voilà, court-circuiter. Mais c'est pas contradictoire. Je trouve que c'est vraiment, ce n'est pas antinomique, c'est parallèle. Et je trouve ça extrêmement intéressant aujourd'hui qu'on s'empare de ce qui existe pour faire de l'édition de mille manières différentes.
Je voudrais partager un message qui a été posté sur Facebook, sur notre fil Facebook, de Freddy Kabeya, qui est à Kinshasa. Il est responsable d'une jeune maison d'édition en RDC. Ça s'appelle la maison ABC à la carte, nous dit-il. Et nous publions, nous dit Freddy, en français, mais surtout dans quatre langues nationales, le Lingala, le Kikongo, le Chiluba, le Swahili. Et malgré le contexte socio-économique difficile, dit Freddy, notre souhait, c'est d'offrir des livres à prix abordable en allant vers les consommateurs. Nous avons, je continue de lire son témoignage, une librairie, mais nous cherchons aussi à promouvoir des livres numériques et audio. Le livre numérique peut suppléer au livre papier, mais ne va pas révolutionner le livre en Afrique. Par contre, je termine de lire son témoignage, par contre, dans un futur proche, nous pensons que le livre audio, en référence à la légendaire tradition orale africaine, a de grandes chances de stimuler le secteur du livre. Toute la famille, poursuit Freddy, peut suivre un livre audio le soir, réunie au salon, dans la voiture, ou encore via son téléphone.
Mais c'est une excellente chose pour des pays ou en tout cas pour un continent avec une très forte oralité. Par exemple, nous, en parallèle avec le Festival des Villes Anciennes, il y a des soirées poétiques souvent qui s'organisent en plein air. Et il y a aussi un apport qui est important, c'est celui des slameurs, ces nouveaux poètes qui sont là, capables de déclamer des textes et tout. Si on parvient à nous saisir de leurs textes, ou nous, par exemple, pendant le festival Traversée Motel, souvent, il arrive que nous remettons les textes de nos auteurs invités à des slameurs qui les préparent, qui les lisent, et qui les lisent par surprise. Et ça, si nous parvenons à le faire, à l'organiser, à trouver des synergies avec différentes structures, c'est des choses aussi qui peuvent aider à la diffusion, à la circulation du livre numérique, audio, par des espaces ouverts, des espaces publics. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument important.
C'est vrai qu'on s'aperçoit... Excuse-moi, Béatrice.
Je suis d'accord qu'il y a plusieurs niveaux, mais tout converge vers le même objectif, faire lire davantage de voisins et de voisines. Et donc, pour la version papier, là où c'est encore utile, c'est bon. Nous, on publie déjà des livres audio et nous sentons très fort l'appel à passer au numérique. On l'a fait timidement.
L'audio, c'est déjà le cas au Nigeria, par exemple, où il y a un vrai marché du livre audio.
À Russo d'Afrique, nous avons des livres audio sur lesquels des comédiens de renom béninois comme Kombe, Kwenom ont posé leur voix et qui se vendent très, très bien. Et donc, c'est l'appel à passer au numérique, c'est-à-dire varier son offre parce que la demande aujourd'hui est variée.
Mylène Flicka, sur le livre audio, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense sur le sujet en entier que considérer Internet comme une part importante de l'édition en Afrique, il faut vraiment aller au-delà du simple fait d'aller sur le numérique. Il faut intégrer pleinement le numérique à l'utilisation des objets technologiques. Par exemple, il y a des maisons d'édition qui peuvent penser à créer des applications directement accessibles sur des iPads ou sur des téléphones. Le mobile a explosé en Afrique, c'est une opportunité.
Et l'écran du mobile s'est agrandi, donc c'est plus facile pour lire un livre dessus.
C'est beaucoup plus facile. Et il y a aussi les applications interactives, tout ce qui peut intégrer le lecteur dans une relation plus humaine avec la maison d'édition. Et surtout, il ne faut pas rechigner à aller sur Internet parce que les jeunes auteurs ont besoin de ça pour leur promotion. Lorsque les maisons d'édition font la promotion sur les médias traditionnels, est-ce qu'ils atteignent vraiment la cible des auteurs ? Comment est-ce qu'on arrive à faire d'un auteur pas connu aujourd'hui, un auteur très connu dans le futur. Comment est-ce qu'on arrive à créer les Ken Bougoul, Seydou Badian, tous les grands auteurs africains? Comment est-ce qu'on arrive à créer cette nouvelle génération?
Est-ce que vous lisez de la littérature africaine anglophone, Mylène?
Anglophone, non.
Ah, non. Ouais. Les Nigérians, les romanciers nigérians?
Je lis beaucoup Chimamanda, qui est l'une de mes auteurs
Americana,
préférés.
Americana, oui. Oui, mais il y a Taï Selassie, Le ravissement des innocents, il y a Chigozie Obioma.
C'est des nouvelles perles.
Mais alors pourquoi du monde anglophone?
Moi, je dirais que c'est parce qu'il y a une labellisation américaine, tout simplement, mon point de vue.
On a aussi dit que ces écrivains, leur façon d'éclore, enfin leur façon de se révéler, se faisait beaucoup dans des ateliers d'écriture, qui est une tradition anglo-saxonne. Alors
que l'écrivain francophone est beaucoup plus dans la solitude de l'écriture.
Mais voilà, ça appuie ma théorie de la labellisation américaine. Ce sont souvent des auteurs qui se sont formés dans des universités américaines, absolument, effectivement, en cours de creative writing.
Mais dans le cas des livres jeunesse, nous faisons beaucoup d'ateliers d'illustration et d'écriture. Nous en avons fait un il y a 2 semaines encore, mais au début de Ruisseau d'Afrique, animé par des illustrateurs de renom comme Dominique Wankumi, nous avons eu beaucoup d'ateliers d'écriture et d'illustration. C'est vrai que ça a permis de créer un vivier de près de 100 auteurs et illustrateurs qui rayonnent autour de Ruisseau d'Afrique.
Alors, quel avenir pour l'édition en Afrique? Bien évidemment, je vais vous questionner sur le futur discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, mais ça sera juste après Suspense, juste après Peter Solo. Chérie Naï.
La Journée internationale de la francophonie, en direct de la BNF.
Diallo, je le vois, vous êtes conquis là par le duo, c'est pas un duo, c'est Peter Solo, togolais qui vit en France. Chérie Naï, ça vous plaît?
Absolument, je trouve que vous avez de très bons choix musicaux.
C'est Romain Dubrac, le programmateur et réalisateur de l'émission que nous saluons. Nous sommes en direct de la Bibliothèque
Nationale. Vous avez de très bons
nationale.
Choix musicaux. Hein. Toutes les musiques que je choisis, ça permet vraiment d'aller vers ce discours, par exemple, que le président devrait prononcer, parce qu'il faudra intégrer la synergie aussi d'intégration des langues africaines, suivant les aires géographiques. Il ne faut pas simplement se cantonner au français en tant que tel. Il faudrait que le français s'ouvre aussi aux autres langues, par exemple, au Peul, au Soninké, au Wolof, au Bambara et à l'arabe, au Hassaniya, en Mauritanie. Ça permet de
permettre aussi aux livres de gagner du terrain sur le continent africain. Je voudrais vous entendre sur le discours que prononcera le président Emmanuel Macron cet après-midi à l'Académie française sur la francophonie, notamment devant 300 jeunes du monde entier, et c'est pas anodin. Qu'est-ce que vous attendez de la France pour l'édition en Afrique, pour l'Afrique, Boss Diallo?
Oui, moi ce que j'attends de la France, c'est d'accompagner davantage, d'une manière beaucoup plus pragmatique, ne pas s'en tenir qu'aux mots, mais concrètement, comment encourager la création de maisons d'édition, la formation surtout, parce que il faut que les éditeurs soient formés. Si, par exemple, je donne des exemples, si à Mauritanie on a 2 maisons d'édition, mais ce ne sont pas des gens qui ont été formés à la culture de l'édition, c'est des passionnés du livre qui ont voulu créer des maisons d'édition, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'une maison d'édition, Béatrice me le dira, ça demande des lecteurs, ça demande
des
rewriting.
Des techniques et un métier, Béatrice Lalion.
Et maintenant, travailler sur les langues en accompagnement avec les langues locales, l'arabe, le poulard, le sonique, le wolof, et tout ça, ça va aider.
Moi, je souhaiterais que le regard change. Que le regard change et que la posture change, que pour que le français s'enrichisse, que les grands décideurs aient sur les autres un regard de donneur et de receveur, pas un regard de donneur simplement.
Vous lisez Alain Maboncou ?
Considérer, oui, considérer les autres un peu comme des dépendants, des charges tout le temps, ça appauvrit le français. Parce que si on observe comment évolue l'édition en Afrique, tant que les gens ont la possibilité d'avoir des portes ouvertes ailleurs, de plus en plus, ils s'en vont. Parce qu'on est dans un espace francophone où les principaux leaders ne se soucient pas de la communauté, du vivre ensemble, du devenir ensemble. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun de nos gouvernants de décider de ce que l'édition locale va devenir.
Le message est passé. Et pour vous qui dit bébé, qu'est-ce que vous attendez du discours d'Emmanuel Macron en quelques secondes d'ailleurs.
Pour moi, c'est peut-être d'avoir une relation hiérarchique en pensant que le Nord, la francophonie du Nord, détient la clé de l'édition et qu'elle puisse considérer aussi... la francophonie du Sud à égalité.
Et pour vous, Mylène Flicka,
je lance plutôt un appel aux jeunes auteurs en leur demandant de trouver tous les moyens d'expression possibles et d'utiliser Internet et tous les moyens à leur disposition pour se faire connaître et transmettre leurs histoires au reste du monde.
Et de poster vos textes à IRAO, ça on l'a compris, c'est vraiment le site qui monte. Merci à vous tous. Qui dit bébé à vos derniers ouvrages, Mon Royaume pour une guitare chez Michel Lafon, Retour sur votre passé, votre père, Francis Bébé. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Steven Elson, à la technique. D'autres émissions vont se succéder à ce micro à la BNF autour de la question, la danse des mots aussi d'Yvan Amar, bien sûr Afrique Midi dans pas très longtemps. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique des magazines. Demain, 7 milliards de voisins, avons-nous tous besoin d'un psy? C'est la question que pose une journaliste qui a enquêté sur ce phénomène de société, des sociétés dites développées, ou comment les psys se sont immiscés dans nos vies dès l'école maternelle. Et qui sait, si nous lisions davantage, peut-être que nous aurions moins besoin d'une oreille payante pour notre vague à l'âme. Voilà, on se retrouve demain, même heure, mais pas au même endroit, dans le studio de RFI, à Paris, à 11h10, heure de Paris.